Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être venus et merci aussi à l'association Jade et dans le cadre de Poésie des Fontaines de nous avoir invités dans le local de la cheminée. Donc, je vais essayer de tenter de vous parler de ce que j'ai appelé l'eau captive, l'eau domestique, en bien commun ou en bien privé, puisque dans l'Écosse, l'eau est un bien qui est une richesse très rare, donc une richesse qui était aussi convoitée. Et je prendrai un exemple, un petit village qui s'appelle Mouillac, qui représente donc la commune qui se trouve à la limite du Lot et du Tarn-et-Garonne. Donc là, vous avez une photo aérienne qui représente donc Mouillac. C'est une commune qui fait 907 hectares, dont 344 hectares qui sont dans le camp militaire. Cette commune se trouve à la limite du Lot et du Tarn-et-Garonne. Alors, je vais faire un exposé brièvement. Ça va être en trois parties. Donc, la première partie, ça sera la présentation du village historique et puis géographique. La deuxième partie, ça sera le petit patrimoine lié à l'eau, donc tout ce qui concerne l'architecture de ces puits et fontaines. Et la troisième partie, ça sera un bien commun. Donc, est-ce que cette eau était un bien privé ou est-ce que c'était une ressource gérée comme un bien commun? Donc, une petite présentation historique de ce village. Donc, ce village, comme vous le voyez, est délimité par deux rivières, donc qui sont le Mouillagol. Voilà, c'est bon. Le Mouillagol qui est en bas et en haut, vous avez donc l'Allère morte, donc qui délimite la commune avec celle de Puy-le-Roc et celle de Caylus. Au centre, on s'aperçoit que vous avez des terres qui sont cultivées. Donc, c'est moi ce que j'appelais sur la commune le grenier à blé. Je vais me lever parce que ça va être beaucoup plus simple. Non, parce que donc là, c'est en jaune. Donc ça, ce sont les terres labourables de la commune. Donc c'est là où on trouve à l'époque, donc notamment sous l'ancien régime, les céréales, donc le blé, l'orge, l'avoine essentiellement. Et on voit que la commune est entourée donc de bois et de forêts. Donc c'est là où on trouvait donc le bois de chauffage, puisque ce sont des chênes pubescents sur ce cosse, il n'y a pas d'arbres de haute futaie. C'est là aussi où la population a mené paître les troupeaux. Donc on est dans une commune qui vivait de la polyculture et de l'élevage, avec un zonage bien précis. Tout ce qui était en fond de combe, donc l'Allère morte et le Mouillagol, c'était là où on trouvait le fourrage. Le centre de la commune, donc c'était ces terres labourables où on trouve les céréales, et autour donc les bois. Qui était pour le bois de chauffage et pour les troupeaux. Donc la commune de Mouillac, à l'origine, elle était dans le camp militaire, puisque le village remonte visiblement à l'époque gallo-romaine, puisque Mouillac, donc l'origine du nom serait d'origine gallo-romaine. Donc Moulius, je vous lis la définition, ça voudrait dire homme maigre, avec un suffixe de propriété acum. Donc ça serait l'origine gallo-romaine. On retrouve les premières mentions de ce village dans les archives à partir donc du XIIe siècle, puisque à cette époque-là, c'était une co-seigneurie qui était donc administrée par la famille Ponce de Salvagnac et le roi de France. À partir donc du XIIIe siècle, début XIIIe, il y a une série de donations et ce sont les seigneurs de la Capelle Livron, donc l'ordre des Templiers, qui deviennent les seigneurs de cette paroisse. À la fin, donc, quand l'ordre des Templiers est dissous, c'est l'ordre de Saint-Jean de Malte qui donc récupère ses biens jusqu'à la Révolution. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette commune, avant la guerre de Cent Ans, les archives disent que c'était une seigneurie qui était bien administrée, qui avait beaucoup de monde. Et avec la guerre de Cent Ans, donc, le Quercy se retrouve à la limite de deux royaumes, le royaume de France et le royaume d'Angleterre, et c'est une zone de conflit. Et donc Mouillac, comme beaucoup des communes du Quercy, sont ravagées par cette guerre, par des razzias, notamment dues aux routiers qui donc, vivaient sur ce territoire par des razzias et des pillages successifs. À ceci s'ajoute donc la famine qui est récurrente, et puis la peste noire qui arrive en 1317 et qui ravage le Quercy. Ce qui fait qu'au lendemain de la guerre de Cent Ans, la commune, comme beaucoup de communes du Quercy, est vidée de la population. C'est un village qui est complètement abandonné. Et le seigneur, pour essayer d'attirer de nouveaux colons, décide de créer ce qu'on appelle un acte d'inféodation. Alors, un acte d'inféodation, c'est un acte notarié, passé entre le seigneur et 12 tenanciers, donc des paysans, qui décident donc de s'installer sur cette commune. Ils défrichent et ils font donc ce qu'on appelle un village de peuplement, c'est-à-dire que cette commune, il n'y a pas d'église centrale, il n'y a pas de place centrale, contrairement aux bastides. Ce sont des hameaux qui sont dispersés. Donc vous avez quatre principaux hameaux. Donc vous avez ici Perruf, vous avez Le Pêche, Tarot, et le dernier, c'est Cavaillé. Donc ça, ce sont les quatre principaux hameaux qui composent la commune. Au niveau toponymie, on s'aperçoit qu'il y a déjà la présence de l'eau dans les noms de lieux, puisque vous avez, je recherchais sur le cadastre, un lieu-dit qui s'appelle Fontanelle. Donc ça veut dire, c'est de l'ancien occitan Fontana, ça veut dire source. Un autre lieu-dit qui s'appelle Sump. Donc les Sump, c'est de l'occitan qui veut dire creux ou mare. Et enfin, vous avez un autre lieu-dit qui s'appelle Fombonne, donc fontaine, la bonne fontaine. Donc déjà, on voit que la présence de l'eau, elle est mentionnée dans la toponymie, elle est aussi mentionnée dans les archives, puisque un acte de donation donc, de 1227 entre Ponce de Salvagnac et le commandeur de la capelle, le Livron, parle des herbages, bois et eaux de la grange de Mouillac. Donc on voit que la présence de l'eau est déjà importante à cette époque. Alors, quand on parle d'eau sur cette commune, je vais vous représenter ici, on peut imaginer que voilà, vous avez deux photos. C'est la vallée enfin, du Mouillagol qui est inondée. Donc, on peut imaginer, en voyant ces photos, que l'eau est présente. En fin de compte, ce n'est pas le cas, puisque ça, c'est assez exceptionnel. Normalement, si vous allez à cette saison-ci, vous trouverez la vallée, c'est une vallée sèche qu'on appelle. Pareil pour l'Aléro Morte. Bon. C'est l'autre vallée, donc qui est inondée avec un petit pont. Mais si vous allez à cette époque-ci, vous allez voir que le lit de la rivière est complètement sec. Ça, c'est à Tarot, oui, tout à fait. Donc avec le petit pont qui permet de passer la rivière. Et si quelqu'un va à cette saison-ci, on pourrait penser que la photo du bas, c'est un chemin creux, un chemin de pierre, alors que c'est le lit de la rivière. Donc l'eau sur la commune est un élément rare puisqu'il n'y a pas d'eau vive. Une eau, c'est pour ça que je l'appelais l'eau domestique, l'eau captive. Les hommes, quand ils se sont installés sur cette commune, ils ont été obligés de créer une multitude de puits, de points d'eau, de mares, de fontaines, pour pouvoir vivre sur ce territoire, puisqu'il n'y a pas d'eau vive. C'est quand il y a un trop, c'est le trop-plein, donc de l'Aléro Morte, du Mouillagol, c'est les résurgences qui coulent, et ça, c'est quand ça inonde. Donc c'est aussi assez surprenant, c'est-à-dire que quand ça inonde, on a une eau qui est très limpide, ce n'est pas une eau boueuse. Alors que quand vous allez dans la vallée, vous allez avoir une eau qui boueuse. Là, non, l'eau, quand ça charrie, c'est une eau tellement claire qu'on a des fois du mal à pouvoir mesurer la profondeur de l'eau, quoi. Donc là, j'ai localisé les puits sur la carte et on s'aperçoit que ces puits sont mal répartis sur la commune. Vous voyez qu'ils sont autour du Pêche. Donc là, tous ces puits sont concentrés autour du Pêche, un peu autour de l'église. Et après, en bas de la carte, ce sont les fontaines du Mouillagol. C'est les premières photos où vous aviez le lit de la rivière asséché. Donc pourquoi ces puits sont concentrés comme ça? Pourquoi il n'y en a pas à Péruf ou au Pêche d'Auriol? C'est lié à la géologie des lieux. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai mis ces puits sur une carte donc, qui représente la géologie. Alors moi, je ne suis pas un grand géologue, donc, qui pourront mieux expliquer que moi, mais ce que vous avez la patate rose au milieu, c'est un calcaire, un dépôt de calcaire qui remonte, je vais vous lire ce qui est marqué, c'est une molasse dite de la Genêt, d'âge tertiaire. Alors que le reste de la commune, c'est le cosse de Limogne qui remonte au Jurassique. Donc sur la commune, vous allez avoir les puits qui sont concentrés autour donc, de cette qu'on appelle molasse dite de la Genêt. Et c'est ce qu'on appelle aussi des nappes perchées, c'est-à-dire que ce sont des sortes de lentilles gréseuses ou argileuses, parsemées de quelques bandes de calcaire lacustre qui constituent un ensemble semi-perméable à imperméable. Et ça fait fonction d'éponge, c'est-à-dire quand il pleut, ces lentilles gréseuses captent l'eau et restitue donc cette eau au puits. Et on peut estimer que cette capacité à alimenter les puits est en moyenne de 1 mètre cube par jour. c'est de faible profondeur, c'est-à-dire qu'on trouve ces nappes perchées entre 2 et 3 mètres de profondeur, d'où la facilité de creuser et d'avoir les puits qui sont concentrés autour de ces lentilles grisaises. Alors qu'ailleurs, donc, ce qui est en bleu, donc c'est un calcaire plus ancien, lui, il est tellement dur qu'on n'a pas pu, l'homme n'a pas pu creuser et avoir des puits. Donc il a fait des citernes. Donc on a vraiment quelque chose de très localisé sur cette commune, autour donc du sous-sol qui détermine l'implantation de ces puits. Alors, ces marnes gréseuses, j'ai essayé de vous faire un plan de coupe. Donc, ce que vous avez donc en rouge, c'est cette fameuse, c'est cette argile, plus ou moins une marne, qui va donc récupérer l'eau, la capter. Et même l'été, si vous prenez cette terre, elle est toujours humide. Donc, elle fonctionne d'éponge. Et c'est pas très profond, là. C'est à peu près à 1,30 m du sol, quoi. Et c'est ça qui va alimenter les puits et fontaines de la commune. Alors là, j'ai appelé ça le cycle de l'eau, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont localisés, mais aussi la disposition de ces puits n'est pas faite au hasard. C'est-à-dire que là, vous avez un petit schéma qui vous représente le circuit de l'eau. Quand le puits numéro 1 déborde, le trop-plein va se jeter dans le puits numéro 2, qui lui-même va prendre le fossé. Donc vous avez la photo aérienne d'en bas, qui représente donc la route. Et donc c'est le fossé qui va reprendre le trop-plein du puits numéro 1 et 2, et qui va donc alimenter le puits numéro 3. Et en fin de compte, le tout va se jeter. Donc sur la photo numéro 4, c'est une ancienne mare, qui aujourd'hui a séché, mais qui récupérait toute cette eau. Donc là, on voit que rien ne se perdait, que l'eau était toujours récupérée et qu'elle servait à alimenter les divers puits et fontaines qui étaient en bordure de route. Alors l'architecture est aussi assez variée, puisqu'on peut voir qu'il y a donc c'est une série de puits à ciel ouvert, c'est-à-dire que ces puits étaient destinés à l'alimentation du bétail essentiellement. Donc ils étaient de plus ou moins de grandeur différente. Et au niveau du bâti, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les rastelles. Donc, c'est ce qui est signalé en rouge. Ce sont des pierres de couvrement qui protègent le mur. Si vous enlevez ces pierres, eh bien, le mur, avec l'action du gel et du dégel, va fondre un peu comme un pain de sucre. Donc, il faut absolument protéger ces murs par ces rastelles. C'est la même façon de bâtir que pour les murs en pierre sèche, quoi. Il y a une grande similitude entre les divers puits. Alors, l'autre catégorie, ce sont ce qu'on appelle les puits couverts. Donc, il y a différentes couvertures. Vous pouvez aussi bien avoir de la tuile que de la lauze. Donc, c'est la photo en haut à droite. Que des puits avec un seul pan ou un pan avec une casquette, c'est le puits à gauche. Ou sinon, la lauze, c'est la même technique de construction que pour les gariotes ou les caselles, quoi. Donc, une grande multitude d'architectures. Et l'autre particularité donc, de ce bâti lié à l'eau, c'est ce qu'on appelle les cabestans. Donc les cabestans, on les trouve uniquement sur les puits couverts. Les puits à ciel ouvert ont tiré les seaux à la corde et on trouve encore des traces sur la pierre, des cordes qui ont usé la pierre. Donc c'est pour vous dire les centaines de fois qu'on a dû remonter les seaux, puisque la pierre encore porte les stigmates de cet effort. Donc les cabestans, c'est constitué d'un cylindre en bois avec des poignées. Donc là, vous avez le premier cabestan donc, qui est classique. Vous avez ces poignées donc, qui sont en forme de croix. L'inconvénient de ce cabestan, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de ces puits, c'est que quand le seau descendait, vous aviez du mal à arrêter la vitesse du seau. Donc vous aviez de la chaîne qui descendait pour rien. Donc après, on remontait de la chaîne et c'était quand on faisait ça plusieurs fois par jour, ben, on en avait marre. Et alors certains ont imaginé, ont amélioré donc le cabestan. C'est la photo en haut que vous avez, puisque là, il est dessiné donc, sur le cylindre en bois. On a placé un tambour, une roue, avec des poignées qui étaient donc parallèles. Donc ça permettait que quand le seau descendait, avec la main, on pouvait freiner la vitesse du seau en le mettant sur le tambour, sur le cercle. Et là, du coup, on remontait uniquement la chaîne qui correspondait au seau qui était immergé. Alors, il y avait aussi une autre fonction sur ce cabestan, c'est représenté par ce dessin, c'était un frein qui permettait donc de tenir le seau juste au-dessus de l'eau, et comme ça, le puits faisait fonction de frigo, puisque, comme aujourd'hui, quand il faisait très chaud, on y mettait la nourriture ou bien le vin au frais, en mettant donc juste au-dessus de l'eau le seau. Et là, ce mécanisme permettait de le transformer en frigo. La photo du bas, donc ça c'est un cabestan qui est plus récent, hein, puisqu'il date du fin 19e, où là on a amélioré un peu le système, puisque c'est toujours le cylindre en bois, mais avec un cercle et avec des crans. Donc c'est une roue crantée et une manivelle. Donc comme ça, si on pouvait arrêter son effort en milieu de course, puisqu'il y avait des crans qui empêchaient le seau de redescendre. Quoi. Vous avez un autre puits, donc c'est le puits de Fontmanette, un puits communal, qui est assez grand. Alors, c'est les petites sources qui font les grands puits, puisque je dirais que ce puits est alimenté de trois manières différentes. La première manière, il est alimenté par le sous-sol, donc hein, ces fameuses lentilles gréseuses, donc, qui permettent d'alimenter ce puits, mais ce n'est pas suffisant. Donc quand ils l'ont construit, ils ont pas été bêtes, ils ont suivi l'inclinaison du terrain. C'est-à-dire que quand il pleut, par temps d'orage, vous avez toutes les eaux de ruissellement qui vont se déverser dans ce puits. C'est un peu comme ça fait un peu fonction de citerne, quoi. Et la troisième alimentation de ce puits, alors on ne le voit pas parce que c'est souterrain, c'est ce qu'on appelle un balatratier. Donc un balatratier, c'était une sorte de canalisation bâtie par l'homme en pierre, et c'était donc sous terre, enterré. Et ces canalisations servaient à capter les eaux de ruissellement. Et au fond de ce puits, on voit donc l'arrivée donc de ce balatratier, de cette canalisation. Donc trois manières différentes d'alimenter ce puits. Et toujours pareil, le trop-plein de ce puits donc, suit donc le fossé qui lui-même va alimenter l'autre puits. Donc rien ne se perd, tout est récupéré par d'autres points d'eau. Non, tout à l'heure, je vous montrerai des photos avant et après travaux. Ce que j'ai appelé le bâti de pierre sèche en milieu humide, c'est que ce soit aussi bien sur l'eau vive, donc au niveau de la l'air morte, que sur ce qui est l'eau captée par l'eau de pluie qui est captée par les mares, la présence de la pierre est un élément essentiel. La photo d'en haut, par exemple, vous montre le lit de la l'air morte, et on voit que c'est des blocs qui sont assez massifs, et quand vous avez l'eau l'hiver qui coule, ben, il faut que ce soit très bien bâti, sinon tout est emporté, quoi. Donc pourquoi ils canalisaient le lit de la l'air morte? C'est que comme vous aviez des prairies, il fallait éviter que ça inonde, sinon, comme c'est une eau qui est très calcaire, vous aviez après l'herbage qui était de mauvaise qualité. Donc il y avait un souci de canaliser cette eau, et l'homme là a fait des ouvrages remarquables. Malheureusement, bon, c'est en mauvais état, mais les traces montrent quand même que c'était des bâtis qui étaient très bien faits. La photo d'en bas, ça représente le guet qui permet de passer. Et les pierres que vous avez, c'est en fin de compte, sous ces pierres-là, que vous avez une sorte de canalisation qui permet à l'eau, quand ça inonde, de passer à travers ces canalisations et ainsi éviter que le guet soit emporté par la force de l'eau. Donc il y avait aussi là un bâti qui était remarquable. Malheureusement, bon, ça, au fur et à mesure que des hivers, comme c'est plus entretenu, les pierres s'en vont, quoi. Et la photo donc de droite, là, c'est un lac. Ce qu'on appelle un lac, c'est une mare, en fin de compte, qui est naturelle, mais où l'homme a aménagé autour des murs. Donc là, on a vu beaucoup de bâtis. On a vu que la présence de l'eau était un élément qui était rare. Et ça nous a incité, au niveau donc de l'association, d'imaginer des contes. Parce que le conte fait partie aussi de l'imaginaire de l'eau, et Maryse donc va vous lire un des contes qui a été écrit lors des ateliers d'écriture.
Il y a fort longtemps de cela, vivait à Mouillac un paysan veuf que l'on surnommait Lougourgo. Il habitait là avec ses trois fils. Tous les jours, dès l'aurore, il sortait sur le balai de son oustal et contemplait champs et vallons, heureux du spectacle harmonieux d'une belle nature lumineuse offerte à tous. Un matin, alors qu'il se livrait à sa contemplation quotidienne, Lougourgo remarqua particulièrement un champ verdoyant dans une combe. Aussitôt, il se mit à penser « Comme cette terre doit être riche pour rester encore aussi verte à cette saison. Sur mon âme, je donnerais bien une part de ma chair pour avoir ce lopin. » À peine avait-il prononcé la chose qu'il entendit le roulis métallique d'un charreton cliqueter sur le chemin. Un vieillard, attelé à une carriole remplie de ferraille hétéroclite et autres marchandises grinçantes, s'avançait péniblement vers lui. Lougourgo interpella le bonhomme. Que viens-tu quérir ici avec ta bricole? Je n'ai point besoin d'aucune babiole.
Ce n'est pas ce que tu viens de penser, Lougourgo. Et je peux te procurer l'objet de ta convoitise qui verdoie à l'horizon.
Stupéfait, Lougourgo réfléchit. Ce colporteur doit être quelque puissant sorcier pour connaître mon nom et mes pensées. Puisqu'il semble que tu saches l'objet de mon désir, mieux que moi-même, comment puis-je l'obtenir?
Demande à ton fils aîné de creuser seul un puits à l'entrée du pêche. Quand il arrivera au fin fond, je me paierai et ton vœu sera exaucé.
Cela dit, le vieux reprit sa route, tirant son charreton dans un bruit de ferraille brinque-ballante. Aussitôt, Lougourgo fit venir son fils aîné et lui ordonna de creuser un puits à l'endroit indiqué. « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Contre roche, contre pierre, le garçon obéit à son père. Et pendant des jours et pendant des semaines, il s'attela à la tâche. Tous les soirs, Lougourgo se penchait sur la margelle et lui rappelait « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Et le jeune homme répondait en écho « Contre roche, contre pierre, j'obéis à mon père !» Un soir, Lougourgo se pencha sur le puits et cria « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Et seul, le silence lui répondit « Plus de fils au fond du puits !» Le lendemain, Lougourgo reçut la visite d'un personnage tout de noir vêtu, un notaire. Celui-ci lui signifia qu'il héritait du champ convoité. Les jours passèrent. Lougourgo reprit sa contemplation satisfaite et matutinale du paysage jusqu'au jour où son attention fut attirée par un joli bois touffu. Comme ce bois doit être opulent de ramures, riche d'essence, source de revenus. Sur mon âme, je donnerais bien une part de ma chair pour avoir cette boisée. À peine avait-il pensé la chose que le roulis métallique du charreton résonnait sur le chemin.
« Salut, Lougourgo, puis-je t'aider de quelque chose ?»«
Si fait, le vieux, pourrais-tu, avant même qu'il ait eu à formuler sa demande, le colporteur lui dit
« Demande à ton cadet de creuser seul un nouveau puits à l'entrée du pêche. Quand il arrivera au fin fond, je me paierai et ton vœu sera exaucé. »
Cela dit, le vieux reprit son charreton et disparut sur le chemin dans le cliquettement de sa carriole infernale. Lougourgo appela son cadet, le conduisit à côté du puits de son frère et lui ordonna « Creuse, creuse mon fils, creuse jusqu'au fin fond !» Contre roche, contre pierre, le garçon s'exécuta, obéissant à son père. Et pendant des jours et pendant des semaines, il s'échina à l'ouvrage de plus en plus profond. Tous les soirs, Lougourgo venait se pencher sur le bord du puits et criait « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Et le garçon répondait « Contre roche, contre pierre, j'obéis à mon père. » Jusqu'au soir, où seul, le silence répondit au gourgo. Le lendemain, le notaire vint annoncer que Lougourgo héritait du joli petit bois. La vie recommença à la ferme. Tous les matins, de son balette, Lougourgo contemplait sereinement la vue ouverte sur le causse. Mais un beau jour, Lougourgo se mit à envier une bergerie qui sommeillait au loin dans un vallon. Comme cette bergerie semble splendide et son troupeau fourni et prospère, sur mon âme, je donnerais une part de ma chair pour posséder le tout. À peine avait-il eu cette pensée que le chant métallique du charreton maudit annonça l'arrivée du vieux colporteur.
Et aujourd'hui, Lougourgo, y a-t-il quelque chose dont je pourrais te satisfaire?
Bien sûr, l'homme, tu sais très bien ce que je veux.
Demande à ton Benjamin de creuser un puits à l'entrée du pêche, tout à côté des puits de ses frères. Quand il arrivera au fin fond, je me paierai et ton vœu sera exaucé.
aussitôt, il disparut dans un bruit de chêne et un fumet âcre de soufre. Lougourgo fit venir son benjamin, l'accompagna près des deux puits et lui ordonna « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Contre roche, contre pierre, l'enfant obéit à son père et pendant des jours et pendant des semaines, il travailla à l'ouvrage. Tous les soirs, Lougourgo criait du bord du puits « Creuse, creuse jusqu'au fin fond, mon fils !» Et la petite voix lui répondait de plus en plus faiblement. « Contre roche, contre pierre, j'obéis à mon père. » Jusqu'au soir où le silence, seul, répondit. Le lendemain matin, le ténébreux notaire apparut dans la cour de la ferme du pêche, annoncé au Gourgo l'héritage attendu. Lougourgo était maintenant le plus riche paysan du canton. Le matin, il sortait sur son balai, regardait la nature, inspirait l'air du Causse et chose étrange, il restait indifférent à tout. Plus rien ne le satisfaisait. Il avait beau chercher, il ne trouvait plus aucun goût à la vie. Tant et si bien qu'un matin, il se surprit à souhaiter. Sur mon âme, je donnerais bien une part de ma chair pour que l'harmonie revienne en ce monde. Le terrible chant métallique du charton retentit aussitôt. Et Lougourgo s'entendit interpeller ainsi.
« Mais Lougourgo, tu n'as plus de chair à offrir. Tes fils ne sont plus d'ici. Donne-moi ton âme. » Et je rétablirai les choses en leur juste équilibre.
Lougourgo, plein de remords, considérant l'abîme de son existence, s'en remit au colporteur, qui l'invita à prendre place dans sa carriole. À peine avait-il disparu sur le chemin dans le cliquettement des ferrailles, qu'apparurent à l'entrée du pêche les trois silhouettes des jeunes hommes marchant en silence vers la maison de leur père. Plus personne ne revit Lougourgo. Depuis, plus personne ne veut boire de l'eau des trois puits du pêche de Fourques. On dit qu'elle a un goût métallique. Si l'envie vous dit, goûtez-y, vous saurez. Et cric et crac, mon compte est acabat.
Ça permet de faire la transition sur l'eau qui est convoitée, puisque bon, ce conte explique la richesse qui est de cette eau qui était convoitée et disputée à travers les âges. Et on retrouve dans les archives déjà un procès de 1304 qui opposait Bernard de Puy-Celcy, qui était le seigneur de Puy-la-Roque, et qui intente un procès contre le commandeur de la Capelle Livron, donc qui était aussi le seigneur de Mouillac, à propos de l'abreuvoir du Mouillagol. L'abreuvoir du Mouillagol, c'est les premières photos de ces fontaines qui sont très anciennes. Donc on voit que l'eau était un élément convoité et qui, des fois, on peut retrouver des procès. Néanmoins, même si cette eau était convoitée, il y avait sur la commune donc, des puits qui étaient publics. Donc chaque hameau, donc les quatre hameaux du début, le pêche, Péruf, Tarot et Cavaillé, avaient donc un puits ou une fontaine qui était publique. Donc ça, c'est ce que j'appelle le consulat, les consuls, donc c'était les anciens conseils municipaux ruraux, puisque sur cette commune, les consuls géraient l'eau avec ses points d'eau publics, et aussi il y avait, au niveau de la gestion de l'espace, la gestion des communaux. Donc les communaux, c'était des bois essentiellement, ou des grèzes, donc les grèzes, ce sont des terrains pierreux qui appartenaient à la communauté d'habitants. Donc avant... la Révolution, il y avait des puits en compois, c'est l'ancêtre du cadastre, environ 30% du territoire qui était des communaux, où donc la population pouvait aller soit chercher du bois mort, soit amener paître le bétail. Et ça, c'était quelque chose de très important pour la communauté villageoise, parce que pour les plus pauvres, c'est un moyen pour eux de pouvoir avoir accès donc à ces espaces. Sur la commune, il n'y a pas beaucoup de différence entre les paysans, entre les riches et les pauvres, puisque bon, sous l'Ancien Régime, il faut savoir qu'il y avait une hiérarchie sociale, c'est-à-dire les laboureurs, c'est ceux qui avaient leur paire de bœufs pour travailler les champs, étaient les plus riches paysans. Ensuite venaient ce qu'on appelait les travailleurs ou les manouvriers, donc c'est des paysans qui avaient un peu de terre, mais pas assez pour avoir une paire de bœufs, donc soit ils se louaient chez un autre paysan, ou soit ils avaient un métier à côté, souvent ils étaient artisans, maçons, ou soit maçon ou soit cordonnier. Et après, vous aviez les brassiers, ceux qui n'avaient que leur paire de bras pour vivre. Et donc, là, ils se louaient chez les autres. Mais sur la commune de Mouillac, jusqu'en 1789, on a très peu de différence entre la communauté d'habitants. Il y a quelques laboureurs, quelques manouvriers. J'ai retrouvé que deux grosses fermes, donc c'est environ 70 hectares. Pas que de terre labourable, hein, avec les bois, hein, qui vont avec. Et un seul est qualifié de bourgeois. Donc bourgeois, ce n'est pas un terme péjoratif. À cette époque, ça voulait dire que c'était quelqu'un qui avait suffisamment de revenus pour ne pas travailler. Et il faisait travailler les autres. Donc il n'y avait qu'un seul bourgeois sur la commune de Mouillac à la veille de la Révolution. Donc ça, c'était le... ces puits représentent un peu... Alors ces puits sont... Vous avez donc en bas de la photo, donc c'est les fontaines du Mouillagol. À Périf, c'est le puits de Turelure. Alors, Turelure, ça veut dire, j'ai essayé de trouver ce que ça voulait dire, c'est un mot mystérieux, ça semble concerner des endroits où il y a des points d'eau qui tarissent facilement. Et c'est vrai que ce puits-là tarit facilement sur l'hameau de Périf. C'était aussi des lieux de sociabilité, puisque ces points d'eau étaient souvent sur des patus, donc qui faisaient fonction de place publique, et c'est là où s'organisaient donc les maisons autour de ces points d'eau qui étaient des lieux de rencontre. Donc l'eau était aussi un élément important dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, quoi. Après, vous avez donc au pêche donc la fontaine de Fontmanette, donc la fontaine Malnette, parce que quand vous y allez, vous avez des lentilles, donc on ne voit jamais le fond de ces fontaines, c'est pas une eau qui l'impide. Et après, vous aviez donc un puits à tarot, donc là c'était beaucoup plus petit, malheureusement aujourd'hui on ne le voit plus parce qu'il est pris dans la broussaille. Mais la particularité de ce puits, c'est qu'il était relié directement à la l'air vive, donc à l'air souterraine. Donc on voyait l'eau au fond du puits qui coulait en permanence, quoi. Voilà les quatre points d'eau publique sur la commune. Alors à cela, il y avait naturellement après des puits qui étaient privés. Donc là, une multitude de puits privés qui est donc au niveau du droit, c'était des puits qui étaient destinés à un seul groupe, donc un puits qui appartenait à une famille ou à une ferme. Mais en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a aussi une variété de droits de puisage et de droits d'usage qui s'adaptent en fonction des lieux. Par exemple, ce puits que vous avez se trouve au presbytère. Donc déjà, la particularité, c'est qu'il est bâti dans le mur de l'ancien presbytère, sur le côté pignon. Et l'autre particularité, c'est que vous avez une double entrée. Donc une entrée côté jardin, donc c'est là vous avez la grille. Et à votre droite, vous avez donc un ancien mur de clôture, mais je l'ai souligné. Là, vous aviez une entrée qui murait. Donc cette entrée qui était murée, c'était en fin de compte un souterrain qu'avaient bâti les gens du hameau pour accéder à ce puits à l'intérieur de la maison. Et on retrouve la trace de ce puits sous la Révolution. Donc la municipalité de l'époque donc prend un arrêté, le 8 Messidor en 4. Donc ils vendent le presbytère comme bien national, sauf le puits, qui reste réservé à l'usage de la population. Ainsi, une servitude de passage et d'usage est créée sur une propriété privée. Donc ça, c'est un exemple, donc, un puits qui est privé avec une servitude publique. Autre aussi caractéristique, c'est ce puits. Donc ça, c'est un puits qui se trouve dans la cour d'une ferme, un grand puits, donc couvert de lauzes. Bon, là, il y a de la neige, mais sinon, il est recouvert en lauzes. Alors, ce puits... J'ai retrouvé un testament, donc un partage de 1841. Où donc, en principe, l'aîné gardait la ferme et puis les frères et sœurs cadets ou cadettes allaient ailleurs faire leur vie. Et dans le testament, il y a une clause bien particulière pour ce puits, puisqu'il est resté le seul bâtiment en indivision, indivis. Et voilà ce qui marque donc dans ce testament. Jean et Jeanne et leurs héritiers, ayant cause et leurs descendants, auront droit de passage d'eau au puits qui est dans la cour du lot de pierre, donc l'aîné. Et ont droit d'y aller avec charrette. S'ils vendent ou donnent à des étrangers leur lot, ce droit de passage ne sera point pour ces derniers et il sera éteint. Donc là, on a donc une particularité, c'est-à-dire que c'est un puits privé avec un droit d'usage réservé à un groupe. Autre particularité, donc c'est l'autre puits. Donc là, je n'ai pas retrouvé les mentions d'archives, mais on voit que ce puits, qui n'est pas très important, a une double entrée. Il y a deux côtés. Si on le localise sur le cadastre, il est en fin de compte à la limite de deux propriétés. Donc à l'époque, les propriétaires, pour accéder à ce point d'eau, ils avaient créé deux ouvertures. Donc on voit que même l'architecture traduit cette variété de droits de puisage et de droits de passage, quoi. Et que pour s'embêter à faire deux entrées, c'est que l'eau quand même était un élément rare. Donc on peut dire que si l'eau était un élément convoité, dans certaines conditions, dans certains cas, il y avait quand même des droits de passage et de puisage. On ne pouvait pas se l'approprier que pour soi-même. Il y avait quand même des limites. Alors, cette eau, elle est aussi présente dans la vie quotidienne. Par exemple, le fait que la commune n'ait pas de rivière, d'eau vive, mais pour faire la lessive, on dépendait du cycle de l'eau. C'est-à-dire que quand l'air coulait, on allait à Tarot pour faire la lessive. Donc, si en période de sécheresse, on ne faisait pas de lessive. Donc, vous voyez l'importance de l'eau dans la vie quotidienne. Autre exemple, c'est que quand il y avait des périodes de sécheresse, par exemple, le curé partait en procession avec la population pour aller implorer qu'il pleuve, quoi. Ou, à contrario, par période d'orage, on faisait sonner les cloches pour éviter qu'il grêle, quoi. Mais on voit que même l'Église s'était accaparée de cette eau qui était tellement rare sur ses causses, quoi. Alors, ensuite, j'ai fait une petite carte qui représente donc pareil la localisation des trois puits du Pêche. C'est là vous avez la petite flèche, hein, à côté, là, à la fourche. Vous avez trois puits donc, qui appartiennent à trois propriétaires différents. Alors, j'ai calculé la distance de ces trois puits par rapport aux fermes d'origine. Donc, la première, il y avait 460 mètres pour aller chercher de l'eau. Donc, si vous faites multiplier par deux, ça vous fait 920 mètres pour aller chercher une cruche d'eau, ce qui fait que c'était quand même un effort considérable. Pareil pour le puits qui se trouve à côté. Bon, là, c'était un peu plus près. Il y avait 333 mètres par rapport à la ferme d'origine. Donc, ça faisait 660 mètres aller-retour. Ce qui fait que l'eau, bon, c'était souvent les enfants qui avaient la corvée d'aller chercher de l'eau au puits, mais c'était un effort tellement important que l'eau n'était pas gaspillée. Elle avait plusieurs fonctions, elle avait plusieurs utilisations. Souvent, on se servait pour soit laver les légumes, soit pour faire la cuisson. Et puis souvent, cette eau qui était utilisée à plusieurs usages finissait pour le cochon, quoi. Donc là, voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'importance de l'eau dans la vie quotidienne et puis aussi de l'intelligence de l'homme par rapport à l'implantation de ces puits. Alors ces puits, naturellement, vous les avez vus en bon état. Mais là, vous avez une photo qui vous représente les photos. La photo du haut, c'était les puits avant restauration. Donc, c'est les trois puits du Pêche. Et en bas, c'est après restauration. Donc, déjà, la photo du haut, à l'époque, c'était en roncier. Il n'y avait plus de ronces. Mais il faut s'imaginer un roncier qui recouvrait ce bâti. D'ailleurs, un des propriétaires ne se souvenait même plus de l'existence de ces puits. Et c'est par ce premier chantier que notre association, donc la PIC, est née, puisque c'est la restauration de ces trois puits qui a décidé de créer l'association. Et une autre restauration que nous avons faite, bon, qui est récente, parce que ça, c'est une restauration qui remonte il y a à peu près 12 ans de cela, c'est donc le puits de Fonds-de-Manette, donc le puits communal. Nous avons aménagé le Patus, donc c'est-à-dire le terrain qui est autour. Donc vous voyez la différence avant et après travaux. Donc là, c'est derrière, c'est le mur de soutènement que nous avons reconstruit l'an dernier, cette année. Donc les vieilles pierres, c'est intéressant, mais c'est-à-dire restaurer le vieux patrimoine, c'est important, mais faire vivre les vieilles pierres, c'est mieux. C'est pour ça qu'au niveau de la PIC, nous avons voulu créer un circuit. Donc c'est un circuit qui est ici. Donc il vous représente des petits points verts, ce sont les puits qui sont visibles de la voie publique. Puisque là, vous avez à peu près une vingtaine de puits. Sur la commune, nous en avons recensé une cinquantaine. Alors quand on parle de puits, c'est aussi des mares, hein, c'est des points d'eau en fin de compte, hein, qui existent sur la commune. Donc cette plaquette, elle est disponible, donc la voici. Et si vous êtes intéressé pour aller sur le site et donc découvrir un peu l'histoire de ce village et de ses puits, je vous invite dimanche prochain, donc le 27 juillet, à venir nous rejoindre puisque nous organisons une balade, une visite guidée. Et le départ de cette visite a lieu devant le patus de l'église à partir de 9h30.
Alors, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de Poésie des Fontaines, mais aussi dans le cadre des rencontres patrimoine organisées par le PMI d'Icercy cet été. Donc, nous sommes entre... il y a des questions possibles à poser à Thierry sur des questions patrimoniales. Il y a aussi retrouver la question de la préservation des ressources en eau qui nous conduit pendant ces 4 journées. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou de démarrer sur un sujet? Oui, Christian.
C'est pour lancer en fait le débat sur un sujet qui est quand même intéressant, passionnant, bien construit. Ce que j'ai ressenti, une évolution temporelle en fait, une sorte d'inversion de perception de données socio-économiques. Il semble qu'à une époque en fait l'eau avait une valeur mais pas de prix. Alors que maintenant, puisqu'elle coule du robinet, elle a un prix, mais pas de valeur obligatoirement. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire, ou un débat à ouvrir en tous les cas, sur ce changement en fait de perception des choses, et peut-être un jour redonner de la valeur à une ressource qui est de plus en plus rare, de plus en plus demandée, en quantité, mais en qualité.
C'est vrai que cette perception, on la retrouve par exemple quand l'eau est arrivée, l'adduction publique est arrivée sur la commune, c'est-à-dire après-guerre, où tous ces puits ont été abandonnés par la population. C'est-à-dire quand l'eau n'y a plus de ce prix-là, les gens qui avaient tous ces puits les ont abandonnés et c'est ce qui a précipité la destruction de tout ce petit patrimoine lié à l'eau.
Qu'est-ce qui vous a guidé à choisir Mouillac pour faire cette étude sur les puits?
Quelqu'un va vous répondre pour.
Et alors là, je vais vous expliquer. Je suis natif de Mouillac. J'ai connu l'exode rural. Tout à l'heure, on a vu les puits du Mouillavol. Et vous en avez eu un qui a du muret autour. Il a été creusé par les gens de Mouillac en 1949. Puisque la nappe était descendue et les deux premiers étaient à sec. Et à l'époque, j'étais mort, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette volonté de la population qui n'a pas hésité à aller creuser le puits en plein mois d'août, les après-midi. Comme ça, le matin, ils étaient au champ, et l'après-midi, c'était un peu à l'ombre, là, ils arrivaient à faire ça. Et cette rareté de l'eau, ayant vécu, c'est sûr que c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Mais, ayant connu l'exode, je suis parti de Mouillac après le service militaire, et je ne suis revenu de manière régulière qu'à la retraite. Et là, j'ai fait le constat. À ma grande surprise, tout ce qui pouvait faire de l'habitat était sauvé, ce qui n'était pas le cas dans les décennies 60, 70 et 80. Chaque fois qu'une ferme arrêtait, on disait que ça fera une ruine de plus. Mais en contrepartie, ce qui fait le paysage. Le paysage, on entend par là les murets, les gariotes, les puits et autres bâtis à pierre sèche. Là, c'était en pure perdition. Et n'étant pas dans une zone où l'Europe subventionne les constructions en pierre sèche, il n'était pas un instant pensable que les artisans auraient un marché qui leur permettrait de se reconvertir un peu dans ce savoir-faire. Hein. Et là, j'ai fait le tour d'amis, j'ai essayé de voir s'il y aurait la possibilité de créer une association pour transmettre ce savoir-faire paysan, tout simplement. Savoir-faire paysan, savoir-faire de bon sens. Et nous avons démarré l'association, nous avons déposé les statuts en décembre 2000, nous étions 6, nous sommes plus de 200. Et le premier chantier a été ces trois puits. Parce que ces trois puits avaient la particularité d'être groupés. Les trois propriétaires se connaissaient. Je savais qu'ils étaient prêts à travailler ensemble. C'est-à-dire que pour aller au moindre prix, au moindre coût, il fallait que ce soit les propriétaires qui donnent les matériaux. Donc un avait de la pierre, l'autre avait de la tuile, un autre avait des vieux chevrons pour rester à l'identique. Et nous, la PIC, on leur a demandé 500 francs, c'était l'époque des francs, pour convertir si vous voulez, et avec 500 francs, on leur payait la chaux et le sable pour bâtir, la voleige de chêne pour rester dans l'authenticité, et la planche de chêne pour faire les portes, c'est moi qui les ai faites. Et ce sont les jeunes de la MFR de Verfeil sur Seille, qui ont bâti ces puits. Nous n'avions pas les forces pour le faire nous-mêmes. Et ces jeunes faisaient une formation de maçonnerie, qualifiante, voire diplômante, et le conseil d'administration, c'est-à-dire les artisans du bâtiment, ont considéré qu'en effet, ils avaient un intérêt que ces jeunes, en plus de faire le bâti au mortier, avec des joints épais et tout ça, apprennent aussi à bâtir, certes avec du mortier, sans qu'on le voit. Donc c'est une demi-mesure, on ne peut pas parler pour ces trois puits de pierre sèche, mais voilà, c'est une imitation pierre sèche, nous avons fait quelque chose qui est tout à fait correct. Depuis, la PIC est en mesure de faire des choses en pierre sèche, nous en avons fait, mais j'arrête là pour ça. Je pense que voilà l'explication, voilà la réponse à votre question.
J'ai une autre question qui est liée, c'est la propriété. Vous dites que ces puits appartenaient à des propriétaires privés, mais il m'avait semblé comprendre que c'était des puits publics, non ?
La majorité, c'était des puits privés. Donc vous avez d'ailleurs sur le cadastre des petites enclaves parcellaires qui indiquent la présence de ces puits, mais on a pris une variété de droits. Donc on a des puits privés avec une servitude publique, vous avez après des puits privés qui sont réservés à un certain groupe, et après vous avez des puits publics. Donc vous avez une multitude de droits d'usage et de droits de passage, parce que ceux qui n'avaient pas accès à l'eau, il fallait quand même que d'une manière ou d'une autre, ils puissent aller chercher cette eau. Donc il y a eu une adaptation donc, juridique de ces droits d'usage.
Et ceux qui ont été les trois concernés, c'était des puits publics, alors privés depuis toujours. Ah, oui. Et les puits publics, non.
Depuis l'origine, ça a toujours été des puits publics.
D'accord. Et ils sont restés tels quels.
Parce que comme il s'agit de marnes gréseuses, qu'on le fasse là ou 20 mètres plus loin, c'est pareil. Et donc, les gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un puits dans leur cour, négociaient quelques mètres carrés avec le propriétaire du terrain, qui était par chance sur une marne gréseuse, et faisait le puits en bordure de l'espace public, pour ne pas handicaper la propriété. Et c'est pourquoi vous en avez trois côte à côte. Et en bordure de route, bien sûr. Voilà. Il y en a d'autres comme ça.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui puisent à ces puits ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher l'eau ?
Oui, il y a des gens qui viennent chercher de l'eau. Alors c'est uniquement pour le jardin, quoi. Pour les chevaux, maintenant, ça a changé. Oui. Maintenant, on a beaucoup de chevaux, plus de chevaux que de brebis. Donc, c'est pour les chevaux, mais il n'y a plus pour l'alimentation humaine. Pour répondre à votre question, certains utilisent le puits avec un motopompe. Donc, l'effort, du coup, il est moindre. Quoi. C'est utilisé, mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes, peut-être pour les chevaux, à la main. Donc là, c'est vrai. Mais sinon, après, pour l'arrosage du jardin, du potager, j'ai vu moi avec des motopompes.
D'ailleurs, pour compléter un petit peu, dans les secteurs où il y a des nappes perchées ou autres, et où les gens ont des puits, tout le monde pompe dans le puits pour arroser le jardin, mais essentiellement pour arroser le jardin. Mais les puits servent toujours.
Je me permets d'intervenir pour vous signaler que les fontaines sont remplies ici grâce à l'eau du puits qui est dans le jardin. Mais j'avoue que j'ai acheté une motopompe.
Moi, je voudrais que Thierry nous raconte, s'il le sait, comment est arrivée l'adduction d'eau, de quel château, et est-ce que ça s'est fait simplement, les puits sont tombés à désuétude de manière naturelle, on ouvrait le robinet, tout allait bien, et puis voilà.
passer la parole à celui-là qui a la mémoire de cette époque, donc qui pourra témoigner de l'arrivée d'eau publique sur la commune.
Joan connaît bien la région et c'est très astucieusement qu'il pose la question. Nous avons eu l'adduction d'eau en 70, puis la roque à partir de 47. Mais dans le secteur, là-haut, c'était tellement commode d'ouvrir le robinet. Deux anecdotes. Une qui concerne les années 70, 71 peut-être. Quelqu'un qui avait une luzerne qui tirait la langue à la capelle Libron n'a rien trouvé de mieux que d'arroser son champ. Il a vidé le château d'eau et les autres ne restaient 3 ou 4 jours sans eau. Voilà. C'est-à-dire que subitement, l'eau coulait du robinet. Il n'y avait plus de soucis à se faire. Mais c'est, alors là, c'est l'anecdote la plus grotesque, si on peut dire. Par contre, en 75, il y a du temps, là, nous avions entrepris de refaire le toit du puits que nous avons dans la cour, et un voisin qui était en plus quelqu'un de... comment dire, d'averti, hein, c'est... viens, il me dit, tu rases le puits, c'est vrai que ça va t'agrandir la cour. Voilà. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a un rôle de mémoire qu'il faut entretenir et faire toucher du doigt que l'eau, plus que jamais, est une denrée rare, une denrée qu'il faut savoir protéger, et c'est souvent qu'il y a heureusement des émissions pour alerter. Et là, je dirais que l'avenir est encore plus sombre que ce que nous avons connu par le passé. Alors, ce sont les sources Saint-Géry et de la capelle et de Libron, plutôt, et de Libron, qui alimentent ce réseau. Dans un premier temps, depuis, ils sont interconnectés, bien sûr, comme partout, mais c'est Saint-Géry. Et là, c'est sûr que Michel va être intéressé.
Disons que sur Saint-Géry, je n'ai pas grand-chose à dire, à part qu'en période de sécheresse, ça s'est produit donc, il y a 15 ou 20 ans à peu près. Effectivement, Saint-Géry était en manque d'eau et on a fait appel aux spéléo-plongeurs pour voir si l'on pouvait trouver une réserve. Donc nous sommes déplacés un petit peu en force pour aller réexplorer Saint-Géry. Mais entre-temps, il s'est mis à pleuvoir et donc tout a été oublié. Mais il faut bien savoir que l'eau, effectivement, peut être rare dans ce secteur.
Dans la slide d'entrée, là, vous parliez de bien commun. Alors, bien commun, ça implique en fait une notion de partage. Ça va de soi. Il y en a deux qui ont été exprimés à travers des puits de banalité, enfin, au sens médiéval du terme. Hein. Et aussi le fait que des personnes qui avaient des nappes ou sur leur terrain la présence de nappes pouvaient céder quelques mètres carrés. Pour aider. Est-ce qu'il y en avait d'autres moyens en fait, d'accéder à l'eau? Et puis, quand on dit partage, on parle de conflit à un moment donné, ça peut arriver. Donc, quel était le moyen de régler ces conflits et qui le faisait?
Sous l'ancien régime, Mouillac, donc, c'était le seigneur de la capelle Livron qui donc, gérait ces conflits, puisqu'il avait au XVIe siècle la haute, basse et moyenne justice. Il était pour cela, quand ils ont créé le village, donc en 1476, le seigneur avait décidé que le bailli, donc celui qui rendait la justice sur le territoire, soit encadré, enfin, comment dire, pas encadré, mais plutôt qu'il y ait deux jurés, choisis dans la population, qui l'assistent. Donc s'il y avait des conflits, ça c'était souvent les conflits de droit d'usage de l'eau, ça correspondait à la basse justice, c'était la justice de paix. Donc là, le bailli était donc assisté de deux représentants de la communauté villageoise, qui étaient élus pour un an. Donc, voilà mais je n'ai pas retrouvé, après c'est assez difficile dans les archives de retrouver, parce que l'inconvénient de Mouillac, c'est que les archives ont été dispersées, puisqu'il n'y avait pas de, pendant très longtemps, il n'y avait pas de mairie. La mairie, les locaux de la mairie datent de 1893. Donc avant cette époque, la mairie tournait d'une maison à l'autre. Donc les archives suivaient. Ce qui fait qu'on, pour retrouver des morceaux d'archives, eh bien, il faut aussi chercher une aiguille dans une botte de foin. Quoi. Il faut trouver, des fois, on trouve quelques paragraphes et ça permet de faire le lien. Donc je n'ai pas retrouvé après d'autres procès, d'autres conflits d'usage sur Mouillac même. J'en ai trouvé ailleurs où il y avait par exemple des fois un puits qui était au milieu d'un pré et le propriétaire se plaignait que quelqu'un aille dans ce, utilise ce, le passage pour aller chercher de l'eau. Mais c'était réglé après par c'était ce qui correspondait à la justice de paix. On trouvait un arrangement amiable. Quoi.
Mouillac, ça dépendait de quel office notarial quand on avait des choses à enregistrer, justement. Dans quelle commune ils allaient pour tout faire écrire, les gens
les, en principe, les gens allaient pour les testaments, les mariages, puisque c'est les, et puis aussi l'achat des terres sur Caylus. Donc, mais aussi, ils allaient sur Puy-la-Roc, puisqu'il y avait des notaires à Puy-la-Roc. On s'aperçoit qu'à partir du 18e, 19e siècle, les gens allaient aussi chez le notaire à Puy-la-Roc. Après, ça dépendait. S'il y avait des mariages, on pouvait passer le contrat là où, d'où venait la femme. Quoi. Donc ça pouvait aller dans le Lot. On n'a pas fouillé partout, non, il reste encore beaucoup à faire.
Est-ce que dans la même veine, est-ce que les puits étaient cadastrés ?
Les principaux puits étaient cadastrés, mais on retrouve les mares, par exemple, nous ne le sommes pas. Souvent, en débroussaillant, on s'aperçoit qu'il y avait une ancienne mare ou un petit puits, là, ils n'étaient pas cadastrés. Ils étaient cadastrés quand ça appartenait à un propriétaire différent. Donc c'était souvent ceux qui étaient en bordure des chemins, ou ceux qui étaient au milieu dans les champs, qui appartenaient au même propriétaire, ils n'étaient pas forcément cadastrés.
Comme autre point d'accès à l'eau, tu n'as pas parlé des citernes, en fait. Et l'exemple que tu as donné dans une maison, en fait, comment as-tu su que c'était un puits et pas une citerne ?
Alors ça, c'est le puits du presbytère. Il est sur une nappe perchée. Et il n'a jamais à sec. C'est un des puits de la commune qui n'est... Alors c'est le puits le plus haut de la commune et c'était celui-là qui avait le plus d'eau. Et il se trouve sur une nappe perchée. Et dans les archives, il marque bien puits et pas les citernes. Les citernes sont localisées sur Péruf. On a beaucoup de maisons qui ont des citernes. Quoi.
Voilà, la citerne, c'est une réserve artificielle. Elle était étanchée avec du ciment. Aujourd'hui, on peut le faire avec d'autres procédés. Tandis que le puits, lui, c'est un trou naturel et c'est la terre qui contient l'eau.
Sur les histoires de droits d'usage, à l'ère de la propriété privée aujourd'hui en premier, qu'est-ce qui resterait comme ficelle, entre guillemets, à tirer pour partager ce droit d'usage, alors à la fois sur les puits privés et quelles sont les règles du jeu aujourd'hui sur les puits publics d'usage et de...
Bonne question, parce que ça permettra qu'on ouvre un peu sur Caylus. À Genevrière, nous sommes en train de restaurer une mare à lavoir. Alors là, c'est toute une historique, puisque l'hiver, l'eau coule en résurgence, et à ce moment-là, elle servait de lavoir, il y a les pierres pour pouvoir laver, et quand ça arrêtait de couler, ça servait comme réserve d'eau. Mais aujourd'hui, on l'a mis en état, ce site. La mare revient à être en état, le puits également, et les agriculteurs peuvent non plus amener leurs troupeaux, bien sûr, ils ne déplacent pas les troupeaux, mais peuvent aller chercher l'eau, puisqu'ils sont d'aller pomper l'eau de toute manière et l'amener sur dans leur parc avec des citernes. Et c'est le cas, il y a un éleveur qui pompe depuis que c'est accessible avec... son matériel pour amener l'eau et donc on voit bien que là aussi cette eau qui est naturelle qui est utilisée et je suis sûr que si on avait un peu plus d'imagination, il n'y a pas que là qu'on pourrait retrouver l'utilisation collective de ces eaux.
Concernant les puits, les citernes de la région, les réglementations sont élaborées où ? Qui élabore les réglementations ? C'est-à-dire qui décide que telle chose va se passer de telle manière, que les adductions d'eau vont se faire de telle manière ? Ça se place à quel niveau de responsabilité de type politique ?
Bon, je pourrais parler que sous l'Ancien Régime, donc c'était, je ne peux pas vous dire de façon comment ça se gère aujourd'hui. Quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de taxe, je n'ai pas trouvé de taxe sur ces puits. Et la propriété, mais c'était passé chez le notaire, quoi, et c'est là où on mentionnait qu'il y avait des puits. Ensuite, ce qui était public, ça date souvent à l'origine donc, de l'implantation. Le puits, la première chose que faisait la communauté d'habitants, c'est de faire un puits public. Donc après, c'était la coutume, c'était la tradition qui disait ce puits est public, il ne peut pas être approprié par une autre personne. Quoi.
Donc,
quelques éléments de réponse. Actuellement, et surtout en milieu rural, la ressource est exploitée par un syndicat, qui n'est pas mixte. Un syndicat des eaux. Donc c'est le cas de syndicat de Puy-la-Roc. Voilà. Donc c'est un groupe de personnes qui se portent garant, hein, quelque part, en fait, de l'eau. Et après, la distribution de l'eau est souvent confiée à une compagnie fermière. De moins en moins, pour l'instant, dans les grandes villes, on retourne en régie. Mais ce sont des cycles économiques, hein, d'une trentaine d'années à peu près. Voilà. Donc, en fait, autour de l'eau, après, il y a une police de l'eau, hein, qui est la mission, en fait, qui dépend de la mission interministérielle du service de l'eau, la mise. Donc, qui est une fraction, en fait, du ministère de l'équipement. En fait, ça doit être ODDT, Direction départementale des territoires. Alors, il y a l'agriculture également, mais en fait, c'est relié, hein. Effectivement. Alors, donc, ça dépend de la topologie du territoire, hein, tout ça. C'est assez complexe, hein. Et pour cette partie-là, donc, bon, la loi, c'est les parlementaires qui les éditent, hein, naturellement, et c'était l'administration de l'appliquer, de manière générale. Voilà, donc en fait, tout ça aussi, ça permet de construire le prix de l'eau. On en parlait tout à l'heure. Donc, chaque partie ayant le syndicat, donc propriétaire de l'eau, vend l'eau, mais en général, vend l'eau pour entretenir les canalisations, pour en fait la distribution. Le fermier, en fait, demande en fait une participation au prix global de l'eau, parce qu'il y a du service au niveau de la qualité, au niveau des compteurs, au niveau d'un tas de choses. Et l'État également, sous forme de taxes, apporte sa contribution à la construction du prix.
Il y a deux choses comme ça, et puis j'arrête d'embêter le monde, mais il y a deux choses comme ça qui me semblent un peu bizarres. C'est que premièrement, vous disiez que l'eau n'avait pas de valeur. Il me semble que l'eau a une certaine valeur pour pas mal de gens. J'entends les gens qui gèrent les syndicats, les syndicats de l'eau, les sociétés privées qui peuvent éventuellement se préoccuper de chercher de l'eau, l'État. Donc c'est une ressource qui a de la valeur pour tout le monde, sauf pour les usagers, si j'ai bien compris. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, quand on voit un territoire aussi particulier que celui-là, où il y a des ressources qui s'assèchent, hein, des moments particuliers comme ça, on peut se poser la question de savoir si les décisions ne devraient pas être prises au niveau des communes et non pas ailleurs. Parce que c'est tellement particulier que ça ne peut pas être généralisé.
Effectivement, en fait, c'est une question plutôt philosophique quand on parle, en fait, quand on évoque les notions de coût, de valeur ou de prix. Ce sont des choses différentes et selon le porteur économique, hein, ou l'acteur socio-économique, en fait, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc voilà, mais je crois qu'il y a...
Alors moi j'ai un exemple en fait, et je pense qu'il se généralise, hein, c'est-à-dire que la commune de Pennes, par exemple dans le Tarn, est une commune qui gère l'eau en direct. Et effectivement il y a un phénomène de solidarité et de mutualisation avec les autres communes, puisqu'il y a eu des problèmes, donc il y a une obligation en termes de services et de fourniture aux usagers. Et les communes avoisinantes, notamment Vaour, ayant des problèmes de production d'eau, il y a une source à peine qui permet d'alimenter l'ensemble des communes, enfin plusieurs communes du Tarn. Et donc là, effectivement, la constitution d'un syndicat. Mais on a encore, et visiblement, des communes cherchent cette voie-là à revenir à une gestion en propre de leur eau. Donc effectivement, on en revient plus à cette notion de bien commun, y compris en termes de distribution.
Ce qui veut dire aussi que ça crée une espèce de lien social.
Il y avait une demande d'intervention là, derrière moi. Il dit que... on n'a pas tendance aujourd'hui à revenir à la régie publique. C'est faux. Je crois que de plus en plus de communes cherchent à revenir à une régie publique pour la bonne et simple raison que dans... j'ai mal compris, excusez-moi. Hein, j'ai mal compris alors. Mais parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans le prix de l'eau qui est payé par les gens, un quart de ce que j'en paye, ça va pour rémunérer les actionnaires qui amènent les fonds. Et donc, il y a manifestement... une question du prix de l'eau qui aujourd'hui est de plus en plus prise en compte, et notamment quand
Par exemple, moi j'habite Montebourg et Mouillac, enfin bon, un peu des deux, mais quand des bâtiments HLM, au lieu d'avoir un système de mutualisation de l'eau, sont passés au compteur individuel, ça a été terrible pour les gens. Ça a été terrible l'augmentation de ce qu'ils ont dû payer. Et donc aujourd'hui, il y a un phénomène de plus en plus important de remunicipalisation de l'eau, y compris au niveau du département, où actuellement une étude est en place pour regarder un peu comment cette eau peut être gérée d'une manière beaucoup plus collective, et c'est important. Je veux juste ajouter un autre mot. On parle aujourd'hui, et je crois que c'est très bien l'intervention de Thierry, tout ça c'est excellent, je crois que c'est bien. On parle dans une situation, moi j'ai juste envie de dire que aujourd'hui dans le monde, il y a 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc, ça fait réfléchir aussi au travail de fond, et je veux dire, à tout ce qui a été comme effort pour les hommes de préserver l'eau et de la protéger. Et de la protéger. Parce que, ce qu'a dit Michel Desjans, l'eau est une denrée rare. Et j'ai bien entendu ce que tu as dit, par contre, là, peut-être un peu plus de manière attentive. On va peut-être vivre des périodes plus difficiles que celles qu'on a connues avant. Parce que justement, il faut qu'on fasse attention à cette eau et que manifestement, il en faut pour tout le monde, quoi.
Juste pour prolonger, Christian, tu utilisais le terme de compagnie fermière, je crois. Le mot est joli et a l'air gentil. Ça a l'air d'être les fermiers du coin qui gèrent l'eau. On a quand même affaire à des compagnies privées qui ne sont pas dans la gestion du bien commun, justement, qui sont juste dans l'accaparement d'une ressource pour en tirer du profit, quoi. Donc, il me semble qu'effectivement, le retour en régie, c'est pas contre les compagnies fermières, parce que c'est le terme est une jolie litote. Oui, consacré, mais qui ressemble pas à la réalité, quoi. Et justement, sur ces questions d'usage et de prix et de valeur, il y a aussi des expérimentations sur la question de la gratuité. D'un certain niveau d'usage de l'eau, c'est-à-dire le niveau de base, qui ressemble finalement au système ancien qui donnait à chacun un minimum d'accès gratuit, même si on n'était pas propriétaire de l'eau. Il y a des expérimentations de ce type qui existent et qui vont justement à l'encontre, qui cherchent à valoriser un bon usage de base taxer un mauvais usage de l'eau, c'est-à-dire que quand c'est pour boire et que c'est quelques mètres cubes d'eau, les usages de base, c'est gratuit de façon à en donner un accès égal à tous. Et puis quand c'est pour laver sa voiture pour la 10e fois et remplir sa piscine pour la 4e fois, ça coûte très très cher, ce qui paraît assez logique quand même quand on parle de ce type de ressources communes.
Ce que tu dis est important. D'abord, la première chose, j'ai du mal à comprendre, alors que le prix de l'électricité en France est le même pour tous les Français, que le prix de l'eau ne soit pas le prix de même, alors que c'est absolument nécessaire. C'est vital. Hein. Donc il y a effectivement, au-delà de l'expérimentation, des réalités maintenant qui existent, en particulier pas très loin d'ici, à côté d'Albi, donc dans une petite ville qui s'appelle Le Séquestre, où il y a eu une mise en place d'une tarification progressive en partant du principe que les 30 premiers mètres cubes devaient être gratuits, parce qu'ils étaient absolument nécessaires, vitaux, hein, pour la vie. Or, il se trouve que sur ce territoire-là, il y a une compagnie fermière qui gère en fait la distribution de l'eau, qui est Veolia. Donc là, voilà, c'est comme ça. Et donc Veolia est absolument satisfait de ce qui se passe là, parce qu'en fait, elle ne perd pas d'argent du tout. Premier point. Alors, j'ai quand même interrogé les gens de chez Veolia. Puis, pour tout vous avouer, j'étais directeur de recherche chez Veolia. Donc, il y a 10 ans. Donc, en fait, je suis pardonné, j'espère. Hein. Mais en fait, quand j'étais embauché chez Veolia, le directeur général de l'époque m'a fait venir dans son bureau. Il me dit, premièrement, la femme de ménage est ta collaboratrice, donc tu vas la respecter. Et deuxièmement, il y avait 2 éprouvettes sur son bureau. Il y avait une d'eau vraiment sale et une eau aussi limpide que celle de Saint-Antonin. Il me dit, la première, c'est celle avec laquelle tu laves ta bagnole. La deuxième, c'est ce qu'on boit en Afrique. Donc tu m'inventeras l'eau pour dans 30 ans. Et en fait, dans ce projet-là, effectivement, ce qui s'est passé au séquestre, en fait, était une très bonne expérimentation, parce que la première des vertus, c'était d'abord de pouvoir donner à des foyers de l'eau gratuite, et la deuxième, c'était de protéger la ressource, comme tu l'as très bien dit, en disant qu'il y avait une tarification progressive et qu'on avait le droit d'avoir une piscine. C'est un droit comme on a le droit d'avoir une Ferrari, à la limite, quand on en a les moyens. Mais à un moment donné, il faut payer. Il faut payer pour ceux qui n'ont pas la possibilité. Donc en interrogeant Veolia là, sur ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir quand même, c'est pas 25%, et heureusement d'ailleurs, hein. Mais donc ils m'ont certifié que sur le Midi-Pyrénées, 96% de l'argent qui était récolté par Veolia était redistribué localement. Donc 4% remontait à Paris. Ce qui est peut-être pas vrai ailleurs, hein, d'ailleurs entre parenthèses, hein, ça j'en suis sûr. Alors pour casser un petit peu l'ambiance, Veolia était, mais c'est vrai pour les autres compagnies fermières, hein, ils sont très heureux les jours de grève parce qu'on continue à consommer de l'eau, mais on paye pas les employés. Voilà, donc en fait, ça c'est vraiment pour casser l'ambiance.
Je voudrais quand même un petit mot, surtout par rapport à hier. Il faut bien savoir que si on veut avoir de l'eau robinet et de l'eau bonne à boire, il faut faire attention de la polluer le moins possible. C'est-à-dire qu'il y va de la responsabilité de chacun, et ce qui permettra aussi peut-être de ne pas augmenter le prix de l'eau sur la facture. C'est-à-dire que chacun doit être bien conscient que pour avoir de l'eau à son robinet, ben, il faut qu'il entretienne et qu'il fasse des efforts.
Je voudrais aborder un autre sujet. On a parlé tout à l'heure de compagnie fermière, que c'était quelque chose qui... c'était peut-être pas forcément, hein, qui traduisait pas la réalité de ces compagnies. Mais sous l'Ancien Régime, on appelait les fermiers généraux. Et les fermiers généraux, c'était des gens qui s'en mettaient plein les poches. Et à la Révolution, on leur a raccourci le cou. Donc ils n'étaient pas du tout populaires, quoi. Et quand on parle de ferme générale, on savait ce que ça voulait dire. Et quoi, c'était... ils avaient découpé le territoire. Et puis...
je sens l'envie de se rafraîchir, commencer à poindre. Et des discussions enflammées se poursuivent autour d'un verre, si vous le souhaitez, à moins qu'il y ait des envies de prolonger un peu. Voilà, bah, je vous invite à prendre un verre en vous remerciant de votre présence.